Bonjour les amis, Isaac vous j'ai fait avoir un reportage du jeu des Jeux d'Estillan 2022. L'an festi reportage sur RTN vous j'ai ballé au Wimba des Jeux. L'an festi reportage les Dorothée Aquino qui est l'adjointe ou directeur du glossaire du Patou et des Suisses romandes qui fait une visite de l'exposition. Cette exposition là nous chose son d'avoir voix sur le bout de la langue la ouais franc intéressante pour tous les patégeants et d'autres mos et jarpitant tout autour du Mont Blanc et Dripouille à Chebon. Cette exposition là est au midéma et d'Estillan et va continuer tant qu'à fin de mai-mars 2023. Et je passe un Nouzatei, Neuchâtel. Bonne double J à vous.
Alors la première étape qu'on a face à nous ici, c'est l'étape médiévale. Donc c'est l'arrivée du français en Suisse romande sur un territoire où les gens parlaient des langues qui étaient les ancêtres des patois modernes et qui, pour ceux qui avaient une pratique de l'écriture, écrivaient le latin. Au Moyen-Âge, la difficulté, c'est de trouver des documents qui nous expliquent, qui nous montrent comment parlaient les gens. Parce que, faute d'enregistrement, on ne sait pas comment ils s'exprimaient. On sait qu'ils parlaient des langues qui étaient les ancêtres des patois, mais on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver des documents, d'autant plus qu'on ne mettait pas par écrit ces langues-là, mais le latin. Donc, le Moyen-Âge, c'est une seule vitrine aussi parce qu'on a peu de choses à montrer, en dehors peut-être des toponymes, donc des noms de lieux, qui sont des témoignages qui restent de cette époque-là. Par exemple, le chemin des Favarges qu'on trouve à Neuchâtel ou la rue des Favarges qu'on voit au pont de Martel, c'est un nom qui nous vient du mot patois qui désigne la forge ou l'atelier de la personne qui travaillait le métal. Et ça, c'est des réminiscences du fait qu'on a parlé le patois pendant très longtemps sur notre territoire. Alors ici, on a un portrait d'une Neuchâteloise qui s'appelle Salomé de Gélieu et qui est une femme qui est née en 1742 au Bayard, donc dans le canton de Neuchâtel, et qui est devenue préceptrice de la future reine de Prusse, Louise de Mecklembourg, et de ses frères et sœurs, ce qui montre quand même qu'au XVIIIe siècle, il y a des personnes dans le canton qui maîtrisent très bien le français et qu'en plus, ce français a une très bonne réputation à l'étranger puisqu'on engage nos professeurs pour enseigner la langue française. Au XIXe siècle, qui est vraiment la période qui marque un tournant fondamental dans l'équilibre des langues qu'il y avait dans le canton de Neuchâtel et en Suisse romande. Donc on a des personnes qui sont de langue maternelle patoise et qui savent et comprennent le français. Et surtout, le français est la langue qu'on va enseigner à l'école. Et l'école va jouer un rôle important dans le recul des patois, puisque, comme vous pouvez le voir là en particulier, l'école interdisait l'usage du patois en son sein. Et on sait même qu'il y avait des jeux dans la cour de l'école pour empêcher les enfants de parler patois. Par exemple, lorsque les enfants arrivaient le matin à l'école, un enfant recevait un jeton et devait le passer à celui qui parlait le patois, et ainsi de suite au fil de la journée. Et l'étudiant qui gardait le jeton à la fin de la journée était puni.
Donc là, c'est les jetons en question.
Ce sont les jetons. Et ici, vous avez un règlement scolaire, celui-là qui est pour le canton de Vaud, mais on en a pour d'autres cantons, qui stipule très précisément que les enseignants n'ont pas le droit d'utiliser le patois dans le cadre de leur enseignement, et même parfois dans l'enceinte de l'école. Le fait que les patois et le français aient été en coexistence durant plusieurs siècles sur le territoire fait qu'on en retrouve des traces dans la langue. Alors on retrouve par exemple des traces dans certains mots qu'on utilise en français mais qui ont été empruntés au patois. C'est le cas par exemple du mot dard, la branche de sapin qu'on utilise à Neuchâtel mais aussi dans l'ensemble de l'arc jurassien et qui vient du patois. Ça peut être le cas aussi d'un certain nombre de noms de lieux ou de noms de famille. Par exemple, le nom de famille Fiva, qu'on retrouve très communément dans le canton, signifie épicéa et c'était donc le mot patois pour désigner cet arbre. Neuchâtel est pas totalement différent des autres cantons protestants de la Suisse romande. Si on peut faire une différenciation, c'est peut-être celle-là, parce que dans les cantons protestants, les patois ont reculé plus rapidement que dans les cantons de confession catholique. Ça, ils l'ont en commun donc avec Genève et autres cantons protestants. Sinon, on a cette tradition de l'enseignement qui est très forte, mais qui est aussi liée au protestantisme. Le fait qu'une langue recule, c'est multifactoriel. Donc l'un des facteurs, c'est la question confessionnelle, parce que le français est la langue de la réforme, contrairement au catholicisme qui parlait latin et qui, comme les gens ne parlaient pas latin, utilisait plutôt les patois pour communiquer. Donc c'est un premier facteur. Ensuite, il y a une question d'industrialisation qui va entrer en jeu. Les régions les plus industrialisées vont voir le recul des patois le plus fort et le plus précoce. Parce que quand on a une arrivée de main-d'œuvre pour travailler dans les industries, il y a un brassage et les gens vont choisir une langue pour communiquer entre eux. Et à ce moment-là, comme tout le monde ne parle pas le patois, on va choisir la langue qui s'impose, à savoir en Suisse romande, le français. Les différences, elles s'entendent surtout au niveau du lexique, puisqu'à l'écrit, on utilise la même langue que la France et que les autres régions francophones. Et donc, c'est dans le lexique régional qu'on va voir apparaître des différences. Et ces différences, elles sont dues au contact avec les langues qui étaient existantes sur ce territoire-là. Donc, d'une part, les patois, c'est l'exemple de dard, donc la branche de sapin. C'est l'exemple aussi d'un mot qu'on identifie moins souvent comme étant régional, qui est sans coublet. Qui est un mot régional pour trébucher et qui vient aussi des patois, même si on ne l'entend plus parce qu'il a été adapté à la langue française.
L'évolution que vous retracez, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre sur notre région ?
Je pense justement que cette exposition permet aux visiteurs de voir que la langue qu'ils pratiquent au quotidien, qui n'est pas la même que celle de ses voisins, fait partie de son identité et est en quelque sorte un héritage de l'histoire de sa région.